France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni et Olivier Dehay. Voici la troisième émission de notre série consacrée au pianiste Life Ove Andsnes et à 30 années d'une superbe discographie qui nous mène toute la semaine sur les pas de Mozart, Grieg, Rachmaninoff, Beethoven, Schubert, mais aussi aujourd'hui Brahms, Shostakovich, Chaïkovski, Lutosławski et Debussy. Troisième émission, inaugurée par Mozart et son Köchel 453.
Thank you.
Ici repose un cher innocent, un oiseau étourneau. Encore dans ses tendres années, il a dû affronter l'amère douleur de la mort. Mon cœur saigne lorsque je pense à lui. Ô lecteur, verse aussi une petite larme pour lui. Il n'était pas méchant, parfois un peu trop allègre, et parfois aussi de temps en temps, un cher et agaçant espiègle, mais pourtant pas chenapant. Je parie qu'il est déjà là-haut pour me remercier de ce service d'ami sans but lucratif. Car comme à l'improviste, il a pris son envol, il n'a pas pensé à l'homme qui peut rimer si joliment. 4 juin 1787, Mozart écrit sur la pierre tombale d'un oiseau mort dont il fut propriétaire pendant 3 ans. Il écrit ce petit texte pour un oiseau qu'il avait enterré dans son jardin, un étourneau sans sonnet qui, paraît-il, pouvait siffler le thème principal de ce mouvement, le final du concerto numéro 17 en sol majeur, Köchel 453, ici joué par Leif Ove Andsnes avec l'orchestre de chambre norvégien qu'il dirigeait de son piano. Le pianiste norvégien s'était lancé récemment dans une tournée mondiale sous le titre Mozart Momentum 1785-86, une tournée que j'évoquais hier et qui aurait dû faire l'objet d'un récent enregistrement, mais la crise est passée par là et on espère que ce n'est que partie remise, cet enregistrement des concertos de 1785-86 avec Leif Ove Andsnes, un projet Mozart en compagnie de l'orchestre de chambre Mahler, calqué sur un précédent projet Beethoven que nous suivons tout au long de la semaine avec un concerto par jour. Alors, troisième jour, troisième concerto, c'est l'opus 37 en do mineur de Beethoven, dont voici l'adagio central, partition dont Andsnes nous dit qu'il a un sentiment très solitaire. Il est, je cite, « plus intime que le mouvement lent du premier concerto » au programme lundi dernier, mais il a aussi ce mouvement lent du troisième concerto, quelque chose de très conciliant, nous dit Andsnes. Beethoven aimait beaucoup Handel, et je pense qu'il y a quelques endroits dans ce mouvement qui rappellent Handel, comme le tout dernier accord. Le mouvement s'éteint progressivement, et puis il y a ce soudain accord fortissimo, libérateur en mi majeur. C'est un geste grandiose, merveilleusement baroque. Un extrait du troisième concerto opus 37 en do mineur de Ludwig van Beethoven par Leif Ove Andsnes et l'orchestre de chambre Mahler. Et je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec ce cher Ludwig chaque jour à 17h sur France Musique et francemusique.fr dans le Van Beethoven d'Aurélie Moreau.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors comme hier, c'est un Leif Ove Andsnes très concertant qu'on va entendre dans cette émission avec des œuvres concertante de compositeurs slaves, Shostakovich, Rachmaninov, Chemanovsky ou encore Lutosławski, mais aussi du piano seul avec Schubert et de la musique de chambre avec la sonate pour violon et piano de Debussy en compagnie de Christian Teslaff. Il y a également Johannes Brahms. Alors voilà un compositeur plutôt rare dans la discographie de notre pianiste. Peu de quantité, mais comme toujours, grande qualité, comme en témoigne un splendide quintet opus 34 de Brahms qu'il a enregistré avec le quatuor Artemis. C'était en public à Berlin en 2006 avec Natalia Prichepenko et Heime Müller au violon, Volker Jacobsen à l'alto et Eckhard Runge au violoncelle.
Thank you.
Natalia Prishepenko et Heime Müller, violon. Volker Jacobsen, alto. Et Eckhart Runge, violoncelle. C'était le quatuor Artemis qui entourait le piano de Leif Ove Andsnes pour cette musique haletante de Johannes Brahms, le final du quintet opus 34 donné à Berlin en 2006. Leif Ove Andsnes nous permet de jouer du contraste, car sans transition, nous passons de Brahms à Shostakovich. Voici d'ailleurs une parenthèse sur les affinités musicales du pianiste que je cite. « Je ne suis pas un fanatique des œuvres pour piano de Prokofiev. On joue tout le temps les sonates de guerre, les 6, 7, 8, mais elles manquent selon moi de sophistication. J'apprécie la musique de Scriabine, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit pour moi. L'écriture en est tellement torturée. Je préfère l'univers de Shostakovich, même si son répertoire pour le piano n'est pas ce qu'il a composé de plus marquant. C'est trop statique à mon goût. Je sélectionne certains préludes et fugues, d'autres me semblent plus adaptés à des transcriptions pour cordes. » Fin de citation. Et puis, Andsnes a enregistré en 1997 le premier concerto pour piano et trompette de Shosta, avec Håkan Hardenberger à la trompette et l'orchestre de la ville de Birmingham, dirigé par Paavo Järvi. Thank you. Paavo Järvi, à la tête de l'orchestre de la ville de Birmingham, menait cette véritable course-poursuite digne d'un dessin animé. C'était le final du premier concerto pour piano et trompette de Dmitri Shostakovich, avec Håkan Hardenberger à la trompette et Leif Ove Andsnes au piano, en 1997 à Birmingham, enregistrement publié par EMI. Nous allons retrouver un peu de calme maintenant, tout en restant dans ce répertoire russe, avec la suite de l'intégrale des concertos pour piano de Rachmaninov, réalisée également pour EMI avec Antonio Pappano. Alors voici le mouvement lent du deuxième concerto en do mineur, opus 18, le Rach 2, avec un fameux thème de clarinette qui symboliserait, dit-on, la rémission de Rachmaninov après une dépression nerveuse qu'il avait soignée grâce à l'hypnose. Nous sommes là au tout début du XXe siècle. Et ce thème de clarinette repris au piano, c'est un thème qui va connaître un succès populaire dans les années 70-80 avec les chansons Life on Mars de David Bowie et All by Myself d'Eric Carmen, mais aussi dans le film Partir, Revenir de Claude Lelouch. L'Orchestre philharmonique de Berlin était dirigé par Antonio Pappano, avec Leif Uwe Andsnes au piano dans le mouvement lent du concerto numéro 2 de Sergei Rachmaninov. Et demain, nous écouterons le premier mouvement de RAC 3, le troisième concerto du compositeur russe, toujours avec Andsnes et Pappano, mais on changera d'orchestre avec l'Orchestre symphonique de Londres.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Nous restons dans l'univers slave sur France Musique, ou France Mougique, si l'on préfère, mais nous passons maintenant en Pologne, la Pologne de Witold Lutosławski, dont Andsnes a enregistré le concerto pour piano, qu'on écoutera dans quelques minutes. Mais tout d'abord, la Pologne de Karol Szymanowski, auteur en 1932 d'une quatrième symphonie qui est en fait une symphonie concertante pour piano et orchestre. Voilà une partition que Szymanowski a dédiée à son ami, son jeune ami Arthur Rubinstein, et qui s'inspire de la musique populaire des Tatras, les montagnes du sud de la Pologne, où le compositeur a vécu à la fin de sa vie.
Thank you.
Le chef d'orchestre anglais Simon Rattle a beaucoup fait pour la reconnaissance internationale de la musique de Karol Szymanowski, en particulier à travers une série d'enregistrements réalisés dans les années 90 pour EMI, comme cette symphonie numéro 4, opus 60. Simon Rattle dirigeait l'orchestre de la ville de Birmingham et le pianiste Leif Uwe Andsnes dans cet Allegro non troppo, ma agitato ed ansioso. Le compositeur polonais demande donc une pointe d'anxiété dans cette agitation populaire, peut-être pour rendre davantage le caractère frénétique de cette musique, de cette quatrième symphonie de 1932. Alors, Karol Szymanowski s'est imposé comme le père de la musique moderne en Pologne, successeur bien sûr de Frédéric Chopin, dans une Pologne politiquement renaissante, puisqu'en 1918, la Pologne politique renaît de ses cendres. Le style de Szymanowski connaît trois grandes périodes. En gros, la période de l'influence post-romantique germanique autour de 1900. Ensuite, la période influencée par la musique française de Debussy, Ravel, autour de la Première Guerre mondiale, mais aussi influence du russe Scriabine. Et puis la troisième période, la dernière période de la vie de Szymanowski, c'est la période nationaliste marquée par l'influence de la musique des montagnes, mais pas seulement, d'autres musiques populaires polonaises l'ont inspiré. Sa mort en 1937 précède de 2 ans l'effondrement de la Pologne face à l'Allemagne nazie, et son héritage sera récupéré après la guerre par des musiciens comme Witold Lutosławski, et même avant, à partir de 1939 et pendant la guerre, par Lutosławski. Lutosławski qui, au début de sa carrière, va écrire également des œuvres d'inspiration populaire, mais plutôt dans l'esprit de la Pologne soviétique, avant de s'en éloigner et de développer un langage personnel d'une grande richesse, d'une grande originalité. Ce qui fait qu'à l'instar de la musique de Szymanowski, celle de Lutosławski a dépassé les frontières culturelles et géographiques de la Pologne pour s'imposer dans le monde entier. Dont acte avec cet extrait du concerto écrit en 1988 par Lutosławski et que Leif Uwe Andsnes jouait ici avec l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigé par Franz Welser Möst. C'est pour le pianiste Christian Zimmermann que Witold Lutosławski avait composé en 1988 son concerto pour piano. Et près de 20 années plus tard, en 2007, Life Uwe Hansness, qu'on vient d'entendre, le jouait ici avec l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, dirigé par Franz Welser Möst. Voilà maintenant un compositeur très présent dans la discographie d'Hansness, c'est Franz Schubert, dont il a gravé de nombreux leaders avec Ian Bostridge, mais aussi des sonates pour piano seul, comme cette 20e sonate en la majeur, Deutsch 959, au sujet de laquelle le pianiste déclare « La sonate en la majeur est unique en son genre, car Schubert s'y révèle par moments tout à fait extravagant, comme par exemple dans le second mouvement. Ce mouvement commence et s'achève par une mélodie merveilleusement simple et mélancolique. » Une mélodie très émouvante. C'est l'un des mouvements les plus touchants qu'il ait jamais composé. Mais au beau milieu de ce mouvement se déroule une sorte d'improvisation tout à fait dingue. Un passage qui ne ressemble pas du tout à Schubert. Avec les lourds accords qui suivent cette accumulation furieuse de tension, Schubert semble rabattre violemment le couvercle du piano et s'écrier « Ça y est, c'est la fin de la musique, il n'y a plus rien à dire ». La mélodie toute simple tente alors de revenir, mais d'autres accords furieux l'interrompent. Finalement, la mélodie réussit à s'imposer. C'est incroyablement dramatique. Je ne vois pas d'autre pièce de Schubert qui renferme une telle fureur ou qui soit si spectaculaire.
Thank you.
Andantino, le deuxième mouvement de la 20e sonate en La majeur, Deutsch 959 de Schubert, par Leif Uwe Hansness, que nous retrouverons demain dans une autre sonate schubertienne, la suivante, Deutsch 960.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors pour profiter au maximum de la vaste discographie de ce merveilleux musicien, je vous propose la plupart du temps d'écouter des extraits, des mouvements de sonates, de quintettes, de concertos. Je tiens également à ce que l'on profite de l'architecte Leif Uwe Hansness et de suivre tout son discours musical sur une œuvre entière. C'était le cas lundi avec le deuxième concerto de Franz Liszt. C'était le cas plus ou moins avec le concerto de Grieg, même si nous l'avions fragmenté sur deux versions. Alors dans le même esprit, voici Hansness chambriste, à côté d'un violoniste pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est Christian Tenslaff, dans la sonate pour violon et piano de Claude Debussy, partition de 1917, que voici donc intégralement sur France Musique et francemusique.fr. Thank you.
Thank you.
Allegro vivo, fantasque et léger, et à l'instant très animé, en trois mouvements, c'était la sonate pour violon et piano de Claude Debussy, enregistrée en 1994 par Leif Uwe Hansness au piano et Christian Tetzlaff au violon. Un disque magnifique sur lequel on peut également retrouver les sonates de Maurice Ravel, de Leos Janáček et de Carl Nielsen. D'ailleurs, au sujet du chambriste Hansness, je vous recommande également les enregistrements qu'il a effectués au début de sa carrière avec son compatriote violoncelliste Truls Mörck. C'est de toute beauté. Mais il nous faut conclure cette troisième émission. Et pour cela, nous allons nous tourner vers un autre Norvégien. C'est Edvard Grieg. Hansness a enregistré plusieurs pièces sur le piano Steinway du compositeur, un piano pieusement conservé dans sa maison musée de Trollhagen à Bergen en Norvège, comme par exemple cette délicieuse pièce lyrique Efterklang, Souvenir. Efterklang, Souvenir, une pièce lyrique opus 71 numéro 7 d'Edvard Grieg, enregistrée par Leif Uwe Hansness sur le piano de la maison de Grieg à Trollhagen. Cette partition date de 1901. Bon après-midi à tous. Dans quelques instants, ce sera Relax avec Lionel Esparza.
À réécouter sur francemusique.fr.